Aujourd'hui, on lit pour toi
les As de l'info. IA et désinformation. As-tu un rôle à jouer? Un texte de Marie-Lise Beaudoin, paru le 26 janvier 2026 dans les As de l'info. Sur les réseaux sociaux, toutes sortes de photos, de vidéos et même d'enregistrements audio sont publiés. Et de plus en plus, on y trouve du contenu généré ou modifié par l'intelligence artificielle. Comme c'est parfois très réaliste, ce type de publication peut devenir viral et avoir de gros impacts. Mais alors, que faire? Le rôle de l'IA dans la désinformation. Du contenu trompeur peut être produit pour différentes raisons. Faire rire, choquer, manipuler ou même nuire volontairement à une personne ou à un groupe. L'objectif est souvent de produire du contenu viral qui suscite de fortes émotions afin de gagner de l'argent ou d'influencer l'opinion des gens. L'IA rend ce processus beaucoup plus simple, rapide et accessible. Résultat, les fausses informations sont plus faciles à produire, plus réalistes et se propagent plus rapidement. Tu te rappelles peut-être, par exemple, de cette image des mythiques lettres Hollywood en feu à Los Angeles. Elle avait beaucoup circulé alors que des feux faisaient rage dans la ville américaine. Beaucoup de gens y ont cru, alors qu'elle a été générée par l'intelligence artificielle. Plus récemment, ce sont de fausses images de la gigatempête de neige en Russie qui ont été énormément partagées. À la vitesse de l'IA. Avant, truquer une photo ou une vidéo demandait du temps et des compétences techniques. Aujourd'hui, quelques clics suffisent pour fabriquer ou modifier une voix, une image ou une vidéo. Cette facilité augmente le risque que des millions de personnes soient trompées. Des conséquences graves. En politique, le faux contenu peut nuire à un parti ou à un politicien. Par exemple, lors des élections aux États-Unis en 2024, des citoyens ont reçu des faux appels imitant la voix du candidat Joe Biden pour les inciter à ne pas aller voter. L'IA est aussi utilisée pour créer du contenu dégradant. L'apparition de fausses images sexuelles est un vrai problème. On t'expliquait dans cet article qu'une image truquée de Taylor Swift avait été vue plus de 45 millions de fois sur le réseau social X. L'IA contre l'IA. Choisir le bon côté de la force. Bonne nouvelle, l'IA peut aussi être utilisée pour lutter contre la désinformation. Par exemple, une équipe de chercheurs de l'Université Concordia a développé un outil de détection des fausses nouvelles. Le souci, c'est que ce type d'outil n'est pas toujours 100% fiable. Par exemple, les détecteurs d'images créés par l'IA repèrent certains indices, dents ou doigts en trop, écriture mélangée, physique peu réaliste. Mais les générateurs d'images sont régulièrement mis à jour par les entreprises pour corriger ces erreurs. Résultat, le détecteur doit lui aussi être constamment mis à jour pour repérer les nouvelles images plus réalistes. Toi aussi, tu as un rôle à jouer. Ce que tu peux faire pour être un détective du vrai et du faux, voici de bons réflexes que tu peux adopter. Prends une pause. Donne-toi du temps pour évaluer le contenu avant de le partager ou de croire tout ce que tu vois. Vérifie la source. Qui a publié cette image? Est-ce que c'est une source fiable comme un journal ou pas? Que me dit cette information? Est-ce qu'elle suscite une forte émotion chez moi? Pourquoi quelqu'un voudrait-il que je la partage? Porte attention aux détails. Exerce-toi comme un pro avec ces conseils de Siméon Dumont sur les fausses images. Les trucs pour ne pas se faire berner par les fausses images. Prendre une pause. Donne-toi du temps pour évaluer la photo avant de la partager ou de croire que cette photo est réelle. Vérifie la source. Qui a publié cette image? Est-ce que c'est une source fiable comme un journal ou pas? Portez attention aux détails. L'IA a encore un peu de difficulté avec les mains et les visages humains. Les résultats sont parfois bizarres, mais attention! Ces programmes ne cessent de s'améliorer et corrigent de plus en plus ces défauts. Quels indices déclenchent chez toi un doute quant à l'authenticité d'une publication? En remerciant pour son apport au contenu, M. Julien Bessel, vulgarisateur scientifique chez Mila. Choisir le français pour l'année 2026. Un texte de Clémence Tessier, paru le 24 janvier 2026 dans les As de l'Info. Quand une nouvelle année commence, beaucoup de gens prennent des résolutions. Il peut s'agir, par exemple, de faire plus de sport, de lire davantage ou apprendre une nouvelle langue. Aujourd'hui, je te parle de personnes qui ont décidé d'apprendre le français ou de faire des efforts pour continuer à le parler pour l'année 2026. Voyons pourquoi cette langue est importante pour elles et comment elles comptent relever ce défi. Au Canada, il y a deux langues officielles, l'anglais et le français. Mais à travers le pays, à l'exception du Québec, c'est l'anglais qui est la langue la plus parlée. Il existe quand même des communautés francophones un peu partout au Canada. Pour ces personnes, continuer à parler français demande parfois plus d'efforts, surtout quand l'anglais est présent partout autour. Parler français, même loin de chez soi. Pour Divine Lobé-Manga, parler en français est une façon de garder un lien avec son identité. Elle a 17 ans, vit dans les territoires du Nord-Ouest et vient du Cameroun, en Afrique. Le français est sa langue maternelle, mais son défi est de continuer à le parler et à l'écrire, puisqu'elle vit dans une région où l'anglais est surtout utilisé. Elle explique. Continuer à utiliser le français dans une province anglophone, c'est une façon de préserver la diversité culturelle du Canada. C'est un défi, mais aussi une fierté. Se lancer en français. L'histoire de Dianica Barker, originaire de la Barbade et installée en Alberta, est différente. Sa langue maternelle à elle, c'est l'anglais. Mais Dianica veut comprendre et parler avec les francophones de la province. Elle remarque « L'un des plus grands défis et de pouvoir me pratiquer à parler et à comprendre la langue à l'oral, surtout parce que je vis en Alberta et que je ne suis pas vraiment entourée de francophones. » Pour atteindre son objectif, Dianica prend des cours avec un professeur privé. Une future prof. Finalement, Tran Du Noc Nguyen vit au Manitoba et vient du Vietnam. Elle aimerait améliorer son français parce qu'elle veut enseigner dans un programme d'immersion française. « Je veux en apprendre davantage sur le Canada, la culture, les gens et la langue », explique-t-elle. Pour s'aider, elle utilise une application, regarde des vidéos sur YouTube et écoute la radio en français dans sa voiture. Selon elle, le plus important est de ne pas abandonner. Il faut continuer à essayer de parler en français. La pratique rend meilleur et il ne faut pas avoir peur de commettre des erreurs, dit-elle. Et toi, as-tu pris une résolution pour l'année 2026? Si oui, laquelle?
Non, 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 non. Thank you.
diriger le Québec. Un texte de Camille Lopez paru le 27 janvier 2026 dans les As de l'Info. C'est confirmé. Le Québec aura un nouveau premier ministre ou une nouvelle première ministre le 12 avril. Cette journée-là, on connaîtra celui ou celle que les membres du parti au pouvoir, la Coalition Avenir Québec, CAQ, choisiront pour être à la tête de leur parti et, automatiquement, diriger la province. Et deux joueurs viennent d'entrer dans la course. 3, 2, 1. Je te les présente. Sur la ligne de départ, si le Québec change de premier ministre, c'est parce que François Legault, qui était au pouvoir depuis 2018, a annoncé sa démission le 14 janvier. Il reste en poste jusqu'à ce que son remplaçant soit choisi. Ce sont les citoyens qui sont membres de la CAQ qui voteront pour leur nouveau chef ou leur nouvelle chef. Puisqu'en ce moment, c'est la CAQ qui forme le gouvernement. La personne élue deviendra officiellement premier ou première ministre du Québec. Deux candidats, à date. Deux ministres de la CAQ ont confirmé qu'ils voulaient succéder à François Legault. Ils ont dû quitter leur emploi de ministre temporairement pour se consacrer à la course. Je te les présente. Christine Fréchette. C'est qui? Elle était la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie depuis 2024, en plus d'être la ministre responsable de la région de la Montérégie. Elle a été ministre de l'Immigration entre 2022 et 2024. Avant cela, elle travaillait pour un autre parti politique, le Parti québécois. Vient de Trois-Rivières, dans la région de la Mauricie. Dans ses mots, à la CAQ, on croit à un État efficace, à une économie forte et à une identité bien assumée. Et mon engagement est simple, défendre et porter ses valeurs. Des appuis? Dimanche, elle avait l'appui de 15 politiciens de la CAQ. Bernard Drinville. C'est qui? Il était le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques depuis septembre. Avant, il a été ministre de l'Éducation entre 2022 et 2025. La loi qui interdit les cellulaires à l'école, elle vient de lui. Lui aussi était auparavant au Parti québécois. Vient de la Visitation de l'île du Pas dans la région de Lanaudière. Dans ses mots. Pour moi, c'est clair. La CAQ doit être le parti du vrai monde. Je veux être leur voix. C'est pour eux que je suis en politique. Des appuis? Dimanche, il avait l'appui de 6 politiciens de la CAQ. Candidat ou candidate surprise? Il est possible qu'une autre personne se lance dans la course. Les intéressés ont jusqu'au 21 février pour présenter leur candidature. Et ce pourrait être quelqu'un qui n'est pas élu. Imagine, quelqu'un qui n'a jamais fait de politique avant pourrait devenir premier ministre du Québec du jour au lendemain. Un scénario impossible. Ça s'est pourtant déjà vu. C'était le cas de Mark Carney avant qu'il devienne premier ministre du Canada. Un mandat très court. La personne qui gagnera la course pourrait diriger le Québec pendant quelques mois seulement. Pourquoi? Parce qu'il y aura des élections provinciales le 5 octobre prochain. À ce moment-là, tous les Québécois iront voter. Et selon les sondages, la CAQ a très peu de chances d'être réélue. C'est le Parti québécois qui est en tête pour le moment. Et toi, quel serait ton slogan si tu voulais te lancer dans cette course? Tout le monde à bord, sauf les enfants. Un texte de Caroline Bouffard et Camille Lopez, paru le 27 janvier 2026 dans les As de l'Info. Scandale sur les rails. En France, les enfants de moins de 12 ans ne sont pas acceptés dans les tout nouveaux wagons de luxe de la plus grande compagnie de train. Pourquoi? Cette compagnie La Société nationale des chemins de fer, SNCF, dit que c'est pour le confort des passagers. Ça cause tout un débat à propos de la place des enfants dans la société, en France comme ici. Tchou-tchou! Embarquement immédiat pour comprendre cette histoire. Depuis le 8 janvier, les voyageurs du train à grande vitesse qui relie les villes de Lyon et Paris peuvent acheter une nouvelle catégorie de billets, la classe Optimum Plus. À bord de ces wagons plus coûteux, ils peuvent profiter de sièges plus grands, de nourriture haut de gamme et d'une ambiance calme, sans enfants. Eh oui, les moins de 12 ans ne peuvent pas y entrer. Sur le site de la compagnie de train, il était indiqué que, pour un maximum de confort à bord de l'espace dédié, les enfants ne sont pas acceptés. À ton avis, créer des wagons de train interdits aux enfants, c'est injuste? Vraiment bizarre? Pas grave du tout? Ou tu ne sais pas quoi en penser? Et que la chicane démarre. Ça fait toute une histoire en France en ce moment. Pourquoi? Parce qu'habituellement, refuser un accès à un groupe spécifique de personnes, ça porte un nom. Discrimination. Rapidement, plusieurs internautes ont dénoncé la situation sur les réseaux sociaux. Même le gouvernement français a réagi. La haute commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, a déclaré que c'est un problème quand le confort des adultes passe par l'absence des enfants. Elle a donc demandé à la SNCF de construire des transports qui incluent tout le monde. Une députée française, Constance de Pilichy, déposera même une proposition de loi pour interdire les zones sans enfants dans les trains et les services publics en France, selon le média LCI. Autre pays, autre solution. Le train est un moyen de transport très populaire en Europe. Dans certains pays, comme la Suisse, l'Autriche ou la Finlande, l'approche vis-à-vis des enfants est complètement différente. Au lieu de les refuser dans certains wagons, il y a des wagons pensés spécialement pour les familles, avec des aires de jeu. Comme celui-ci qui se promène en Suisse. La SNCF Immobile. Malgré cela, la SNCF n'a pas reculé sur sa décision. La preuve, l'équipe des As de l'Info a essayé d'acheter un billet Lyon-Paris pour un adulte seul, puis pour un adulte et un jeune de 11 ans. Impossible de sélectionner la classe Optimum Plus quand l'adulte était accompagné d'un moins de 12 ans. L'entreprise a expliqué que cette politique anti-enfant n'était pas nouvelle. Même avant, dans ses autres wagons de luxe, il était déjà impossible d'acheter des billets aux tarifs d'enfants. Elle affirme aussi répondre aux besoins de clients qui demandent des espaces calmes réservés aux adultes. Et qu'au bout du compte, c'est seulement une très petite portion des places qui sont interdites aux enfants. Malgré tout, cette histoire continue de rouler en France et ici. As-tu déjà voyagé en train? Source, La Presse et Le Parisien. Pour ou contre les milliardaires? Un texte de Caroline Bouffard, paru le 26 janvier 2026 dans les As de l'Info. Un milliardaire, c'est quelqu'un qui possède au moins 1 milliard de dollars. C'est très, très riche. Il y aurait actuellement 3 000 milliardaires dans le monde. Et pour Oxfam, une organisation qui lutte contre la pauvreté, c'est inquiétant. Pourquoi? Parce que leur fortune leur donne tant de pouvoir qu'ils peuvent affaiblir la démocratie. C'est ce qu'Oxfam affirme dans un nouveau rapport. Est-ce qu'on devrait permettre à ces personnes d'avoir tant d'argent? Réfléchissons ensemble avec ce pour ou contre les milliardaires. Les pour. Ils font rouler l'économie. Les milliardaires sont pour la plupart des gens d'affaires, à la tête de compagnies qui connaissent beaucoup de succès comme Amazon, Tesla ou Meta. Ils investissent leur argent pour faire grossir leurs entreprises. Cela crée beaucoup d'emplois, oui. Ils font de l'argent, mais ils permettent à tant d'autres personnes d'en faire aussi. Ils osent prendre des risques. Grâce à leur grande fortune, les milliardaires peuvent lancer des projets plus risqués, ce que les gouvernements ne peuvent pas faire. Leur argent peut servir à développer des technologies ou de nouveaux médicaments. Par exemple, le milliardaire Richard Branson, fondateur de Virgin, grand amateur de tourisme spatial, a financé la construction de nouveaux modèles de fusées. Ça peut permettre de faire des avancées. C'est leur argent. Ces personnes ont gagné leur argent. Ils ont travaillé fort, ils ont été audacieux, ils ont fait des découvertes, ils ont innové. Cet argent leur revient, ils le méritent. Et ils ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on ne serait pas un peu jaloux? Les contres. C'est scandaleux. Dans le rapport d'Oxfam, on apprend que les 12 milliardaires les plus riches du monde ont plus d'argent que les 4 milliards de personnes les plus pauvres de la Terre. Ça ne fait aucun sens que des gens accumulent ces immenses fortunes. Les milliardaires pourraient donner au moins la moitié de leur fortune et ils seraient encore très riches. En fait, s'ils se mettaient ensemble, ils pourraient carrément éliminer la pauvreté de la planète. Ça ébranle nos démocraties. Comme le souligne Oxfam dans son rapport, avoir autant d'argent permet d'influencer les politiciens. On l'a vu l'an dernier. Le propriétaire de Tesla, Elon Musk, a obtenu un rôle au gouvernement des États-Unis alors que personne n'avait voté pour lui. D'autres achètent des médias comme le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, qui est propriétaire du Washington Post. Ça fait craindre pour la liberté des journalistes. Tant de pouvoir dans les mains d'un petit groupe de personnes, c'est inquiétant. Ils doivent contribuer plus. Selon une étude de l'Université de Berkeley, en Californie, la majorité des milliardaires américains ne paient pas assez d'impôts. C'est injuste. Heureusement, ces ultra-riches veulent payer plus. On a appris, le 20 janvier, que 367 millionnaires et milliardaires avaient signé une pétition pour demander au gouvernement de leur faire payer plus d'impôts. Trouves-tu ça surprenant? Claire Trottier, une amie des As qui est née dans une famille très aisée, fait partie du groupe qui a signé la pétition. Elle nous a expliqué pourquoi elle milite pour payer plus d'impôts. Voici un petit résumé de l'entrevue. Lorsque Claire était au secondaire, sa famille a commencé à faire beaucoup d'argent grâce à une compagnie familiale. Aujourd'hui, Claire est millionnaire, cependant. Elle aimerait payer plus d'impôts. Elle milite depuis plusieurs années pour que les riches et les ultra-riches donnent plus de leur argent au gouvernement pour aider la société. Il y a beaucoup de millionnaires au Canada, plus de 2 millions. Et Claire est convaincue que si on obligeait tous ces gens à donner une petite partie de leur fortune, on pourrait régler beaucoup de problèmes. Merci à Mélanie Loubert pour son entrevue et ses précisions. En bref, pour, ils font rouler l'économie, ils osent prendre des risques, c'est leur argent. Contre, c'est scandaleux. Ça ébranle nos démocraties. Ils doivent contribuer plus. Toi, es-tu pour ou contre les milliardaires? K-pop Demon Hunters contre Zootopia 2. Qui remportera l'Oscar? Un texte de Clémence Tessier, Réseau Presse, paru le 23 janvier 2026 dans les As de l'Info. C'est le 15 mars qu'aura lieu la cérémonie des Oscars, un gala qui récompense les meilleurs films de l'année. L'événement se déroule à Los Angeles, aux États-Unis, et en est déjà à sa 98e édition. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que plusieurs films en nomination te sont peut-être familiers, et certains viennent même du Québec. Lesquels? Allons voir. Dans la catégorie de l'Oscar du meilleur film d'animation, on retrouve Arco, Elio, Amélie et la métaphysique des tubes, K-pop Demon Hunters et Zootopia 2. Selon toi, lequel de ces films repartira avec l'Oscar du meilleur film d'animation? Et si tu es fan de K-pop Demon Hunters, tu seras ravi d'apprendre que la chanson Golden du film est elle aussi en nomination, cette fois dans la catégorie de la meilleure chanson originale. Le Québec se démarque. Le court-métrage d'animation « La jeune fille qui pleurait des perles », créé par les Montréalais Chris Lévis et Maciek Zerbowski, court aussi la chance de gagner un Oscar. Ce film a été réalisé avec des marionnettes et des décors fabriqués à la main. Un autre film québécois pourrait remporter un prix. « Perfectly a Strangeness », un court-métrage documentaire signé par Alison McAlpine, une réalisatrice qui vit, elle aussi, à Montréal. Et toi, si tu avais à choisir, quel serait le film de l'année? C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
Ici Terrence. Merci à Gilbert, Christiane, Louise, Mathieu et Carlo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de On lit pour toi!